RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel. Bonjour Diane Berger.
Bonjour Julien Coquel-Rouhem, bonjour à tous.
Les négociations au point mort entre Israël et le Hamas.
Le Qatar a confirmé hier suspendre sa médiation, faute d'efforts suffisants entre les parties prenantes. Nous ferons le point dans ce journal sur les réactions des Palestiniens, assez désabusés, vous l'entendrez, et sur les potentiels soutiens du Hamas pour la suite. Direction ensuite l'île Maurice, plus d'un million d'électeurs convoqués aux urnes pour les législatives. Notre correspondant nous dressera le portrait des deux potentiels Premier ministre. Lima accueille les pays membres de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Il y a parmi les invités la Chine, qui avance ses pions sur le continent sud-américain. Focus dans ce journal sur le mégaport gigantesque de Pékin au Pérou. Et puis les droits de l'homme réprimés en Azerbaïdjan. Des ONG dénoncent des arrestations nombreuses, alors que le pays accueille à partir de demain la COP29 pour le climat.
Le Qatar suspend sa médiation entre Israël et le Hamas.
L'émirat l'a confirmé hier en fin de journée. Les négociations ne reprendront, je cite, que lorsque les parties feront preuve de volonté et de sérieux. Pour l'instant, ces négociations n'avancent plus en vue d'un éventuel cessez-le-feu entre l'État hébreu et l'organisation palestinienne responsable de l'attaque du 7 octobre. Avec les États-Unis et l'Égypte, Doha jouait un rôle clé dans les pourparlers entre Israël et le Hamas. Les précisions d'Alice Froussard.
Israël et le Hamas ont été informés il y a 10 jours de cette décision, assure Doha, qui semble en avoir assez de ces cycles sans fin de négociations. Il faut dire que depuis le 7 octobre 2023, la médiation du Qatar n'a mené qu'à une seule trêve. Elle a duré une semaine et a permis la libération d'otages israéliens retenus à Gaza et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Depuis, de nombreux pourparlers ont eu lieu sans résultat, car Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de bloquer tout accord, chaque camp refusant les conditions de l'autre pour parvenir à un cessez-le-feu. Pour les Palestiniens, cela n'a rien d'une surprise ni d'un désaveu. On ne croit plus aux négociations, précise un habitant de Gaza qui n'attend plus que des actes, un cessez-le-feu pour, je cite, que ces massacres se terminent, avant d'insister. À Gaza, la situation, dit-il, est de pire en pire, qu'il y ait ou non des négociations.
Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier soir dans les rues de Tel Aviv, comme chaque samedi, pour demander la libération des otages. Et dans le cortège hier, l'annonce de l'arrêt de la médiation qatarienne a généré de l'inquiétude concernant l'avenir des derniers captifs. Une autre interrogation face à une baisse du soutien du Qatar, vers qui pourra se tourner le Hamas? Élément de réponse avec Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen de Genève.
Difficile de remplacer la station qatari, mais je pense que c'est plutôt la Turquie et l'Iran qui vont jouer un rôle important. Je pense que les Iraniens se réjouissent finalement d'avoir un rôle important. Et on sait très bien que les relations sont très importantes. D'abord, de l'ancien chef du Hamas, Yahya Sinwar, qui entretenait des bonnes relations, et ce qui veut dire que la ligne va être plutôt la ligne proche de l'Iran qui va être renforcée.
La perspective d'un cessez-le-feu paraît en tout cas bien lointaine désormais et la guerre continue dans Gaza. Les Nations Unies alertent concernant un risque de famine imminente dans l'enclave palestinienne, une menace balayée par Israël qui répond que le rapport de l'ONU est biaisé. Par ailleurs, les frappes continuent dans d'autres pays de la région. Les raids israéliens ont fait hier au moins 33 morts au Liban et les États-Unis annoncent avoir bombardé des installations des rebelles houthis au Yémen.
Les bureaux de vote sont ouverts depuis 3 heures à Maurice.
Plus d'un million d'électeurs sont appelés aux urnes pour les législatives anticipées. Près de 900 candidats sont en lice. 62 sièges à prendre à l'Assemblée. La bataille pour le pouvoir se joue entre deux coalitions majeures, l'Alliance du Peuple du Premier ministre actuel, Pravin Jugnauth, et l'Alliance du Changement de Navin Rangoulam. Leur portrait est signé Abdullah Erali, notre correspondant à Port-Louis.
Dans la course au poste de Premier ministre, Pravin Jugnauth et Navin Rangoulam partagent un héritage commun. Tous deux sont issus de la caste hindoue des Vaish et fils d'anciens premiers ministres qui ont marqué l'histoire du pays. Ce Aniru Jugnauth pour l'un et ce Siusagar Rangoulam, père de l'indépendance mauricienne, pour l'autre. Cependant, les ressemblances s'arrêtent là. À 62 ans, Pravin Jugnauth, avocat de métier, leader de l'Alliance du Peuple et premier ministre sortant, incarne une relative jeunesse face à son rival de 77 ans. Ayant succédé à son père en 2017, il brigue aujourd'hui un troisième mandat consécutif. De son côté, Navin Ramgoolam à la tête de l'Alliance du Changement vise un quatrième mandat. Cet ancien médecin titulaire d'une formation en droit également a connu depuis 2014 une traversée du désert marquée par des démêlés judiciaires et une interdiction de voyage, interdiction levée exceptionnellement en 2021 pour des soins médicaux en Inde. Cette confrontation historique entre deux héritiers dynastiques tient en haleine toute une nation. Abdullah Erali, pour lui, RFI.
Abdullah Erali, que l'on retrouvera en direct dans le prochain journal à 7h30, heure française. Les bureaux de vote à Maurice sont ouverts jusqu'à 18h, heure locale, et les résultats sont attendus dans la journée de demain. Les résultats détaillés d'un autre scrutin majeur qui a marqué la semaine, la présidentielle américaine remportée par Donald Trump, et les chiffres définitifs de l'Arizona sont tombés il y a quelques heures. C'est le républicain qui a gagné dans cet état. Autrement dit, le milliardaire a battu Kamala Harris dans tous les swing states, tous les états clés. Une victoire écrasante. Le futur locataire de la Maison Blanche qui doit rencontrer Joe Biden mercredi prochain pour préparer la transition politique. Plusieurs interpellations à Cuba après des manifestations dénonçant les coupures de courant. Le parquet n'a pas révélé le nombre d'arrestations, mais il indique qu'il s'agit de personnes soupçonnées de troubles à l'ordre public. L'ouragan Raphaël a privé l'île de courant pendant deux jours cette semaine, après déjà une panne généralisée massive en octobre et des problèmes récurrents sur le réseau.
Plus au sud, sur le continent américain, le sommet des pays de l'Asie-Pacifique commence dans quelques heures à Lima, au Pérou.
L'APEC, le grand forum économique qui regroupe 21 pays de part et d'autre de l'océan, notamment la Chine qui gagne du terrain en Amérique du Sud. Pékin va profiter du sommet pour aller inaugurer jeudi prochain son mégaport sur les côtes péruviennes, un projet gigantesque qui divise parmi les pêcheurs de la petite ville de Chancay. Reportage Martin Chabal.
Difficile de trouver quelqu'un prêt à nous parler sur le port de la petite plage de pêcheurs de Chancay. Seul Julio César, 76 ans, qui ramène du poisson au village depuis son adolescence, s'offusque de la nouvelle présence chinoise.
Avec lui,
ce port a détruit la zone de pêche. C'est la pire chose qui soit arrivée à Chancay. Maintenant, les pêcheurs doivent tout contourner, par là et puis par là. Avant, on le faisait en une heure. Maintenant, on met trois heures.
Il en veut à certains de ses collègues pêcheurs qui n'ont pas l'air de s'inquiéter de l'ouverture de ce mégaport qui relie Shanghai à Chancay avec des bateaux énormes pouvant transporter près de 18 000 conteneurs. Juan est l'un des responsables du syndicat des pêcheurs de Chancay. Il a accepté l'offre de l'entreprise chinoise qui a construit le port et qui l'exploitera.
Tous les 4 ans, ils nous donnent environ 15 000 euros. Donc je me suis acheté un bateau à moteur pour aller plus loin. Puis grâce à eux, mes enfants peuvent aller à l'université. Mes deux filles sont à Madrid.
De son côté, la mairie fustige le gouvernement péruvien d'avoir accepté la proposition chinoise. La ville n'est tout simplement pas prête à accueillir un si gros projet et elle redoute aussi les conséquences écologique d'avoir certains des bateaux les plus grands du monde le long de ces côtes déjà polluées par le pétrole. Martin Chabal, Lima, RFI.
Et un autre grand sommet international qui s'ouvre, lui, demain, la COP29 pour le climat à Bakou.
Un sommet en Azerbaïdjan où plus d'une trentaine de militants associatifs et de journalistes ont été harcelés et voire arrêtés depuis le début de l'année. Plusieurs ONG dénoncent un climat répressif, incompatible à leurs yeux avec l'organisation de cette conférence cruciale pour la planète. Daniel Valo.
Les autorités azerbaïdjanaises feront tout pour que la COP29 se déroule de la meilleure façon possible, que ce soit pour les dirigeants ou pour les institutions internationales qui seront représentées à Bakou. Mais cette préparation en amont a eu aussi pour corollaire une répression accrue sur les militants et les associations qui en Azerbaïdjan se permettent de critiquer le pouvoir en place. Selon l'ONG Human Rights Watch, une trentaine de personnes ont ainsi été arrêtées depuis le début de l'année pour des accusations qualifiées de fallacieuses. Le constat de l'ONG est sans appel, l'Azerbaïdjan a voulu décimer la société civile à l'approche de la COP29. De leur côté, les autorités azerbaïdjanaises rejettent ces accusations qu'elles qualifient de biaisées et d'inacceptables et fustigent des motivations politiques inappropriées. Fin de citation. À l'approche de la COP29, de nombreuses ONG ont pourtant de nouveau réclamé la libération des militants et des journalistes emprisonnés et ont demandé à l'ONU et aux dirigeants qui participeront à la conférence de faire pression sur l'Azerbaïdjan pour qu'ils mettent un terme à la répression de la société civile.
Daniel Valo a noté lors de cette COP la présence d'une délégation afghane. C'est une première depuis le retour au pouvoir des talibans il y a 3 ans. Rappelons que l'Afghanistan est le 6e pays le plus exposé au changement climatique, touché notamment par des sécheresses et des crues conséquentes. L'urgence climatique qui pèse aussi sur l'Espagne. Ils étaient 130 000 selon les autorités à manifester hier soir dans les rues de Valence, au cœur de la région touchée par les inondations qui ont fait, on le rappelle, au moins 220 morts la semaine dernière. Un slogan martelé dans le cortège, assassin. Les participants reprochent à la classe politique et la gestion chaotique de la crise, notamment le manque d'anticipation et la mauvaise coordination des secours.
Et puis le Royaume-Uni rend hommage à ses soldats morts pour la nation ce week-end.
Un événement important dans la tradition britannique. Depuis plusieurs semaines, tous les officiels du pays arborent d'ailleurs un coquelicot sur leurs vêtements en souvenir des militaires tombés pendant la Première Guerre mondiale. Cette année, ces commémorations sont aussi marquées par le retour de la princesse Kate, la femme du prince William, de retour donc dans la vie publique après ses graves problèmes de santé. Thomas Arms.
Les Britanniques attendaient une réunion royale avec le retour de Kate Middleton après 8 mois de combat contre le cancer. Car depuis début septembre, sa chimiothérapie a pris fin. Elle s'est donc rendue samedi après-midi avec son mari et le roi Charles III au Royal Albert Hall de Londres pour 3 heures de souvenirs et de musique en mémoire des soldats tombés pour le Royaume-Uni. Ce dimanche, une autre cérémonie mémoriale se tient, à nouveau en présence du roi et du couple princier, devant le cénotaphe de Londres, le mémorial de la Première Guerre mondiale, érigée en 1920. Mais si Kate est bien présente, la reine Camilla, 77 ans, est elle par contre restée au palais. Selon Buckingham Palace, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Camilla est juste victime d'une maladie passagère et saisonnière, mais fortement contagieuse. Et selon le communiqué, elle voulait minimiser les risques de transmission de son infection pulmonaire aux vétérans âgés présents lors des cérémonies. Alors ce n'est pas l'anus horribilis, mais selon le prince William, cette année a été la pire de sa vie, une année difficile et brutale, après les diagnostics inattendus de cancer de sa femme et de son père, le roi Charles III, toujours en traitement. Thomas Arms, Aberdeen, RFI.
Enfin, en bref, la France sera peut-être paralysée par une grève à Noël. Les syndicats de cheminots menacent de lancer un mouvement illimité à partir du 11 décembre, c'est-à-dire à 10 jours des vacances de fin d'année. Ils contestent le démantèlement de la filière de fret de la SNCF, la Société française des chemins de fer, et ils protestent également contre les modalités de l'ouverture à la concurrence des lignes régionales.
Et une première journée de grève est prévue fin novembre, entre le 20 et le 22. Merci beaucoup, Diane Berger. On vous retrouve tout à l'heure. RFI Matin, la suite, un nouveau point sur l'info africaine dans un peu moins de 20 minutes. Et d'ici là, notre tour du monde des correspondants à la veille du début de la COP29 sur le climat. Portrait croisé de 3 négociateurs et à travers eux, des enjeux de cette COP pour leur pays. On partira au Kenya rencontrer le négociateur, le monsieur climat du gouvernement de William Ruto. Vous entendrez aussi parler de la négociatrice argentine, parfaitement alignée avec le climato-sceptique Javier Milei. Et puis les États-Unis de Joe Biden, mal à l'aise, alors que Donald Trump promet de sortir de nouveau de l'accord de Paris dès son retour au pouvoir le 20 janvier. Mais tout de suite, le journal des sports. Avec vous, Christophe Diremzian, et avec l'appel du large, aujourd'hui, le 10e Vendée Globe, le mythique tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance, commence à la mi-journée au Sable d'Olonne.
L'un des plus grands défis du sport. 40 marins, 34 hommes et 6 femmes de 11 nationalités différentes à l'assaut des océans sur des monocoques d'un peu plus de 18 mètres. Une foule immense va accompagner les navigateurs à l'embarquement pour ce périple de 70 à 80 jours. Pour le futur vainqueur, une ferveur populaire qui va disparaître au fil des premières minutes en mer pour laisser la place au premier moment de solitude, des instants qu'a bien connu Louis Burton, 3e de l'édition 2020. Et au départ, pour la 4e fois, il est avec Thomas de Saint-Léger.
Il y a un sentiment un peu particulier quand le dernier bateau accompagnateur va faire demi-tour. On a un petit sentiment de vide, un peu comme si le pont du bateau se dérobait sous nos pieds. Parce qu'on sait que normalement... Si on veut revenir là dans de bonnes conditions, il faut faire le tour de la planète à la voile. Donc c'est quand même quelque chose d'absolument dingue. Et il faut essayer de se préparer à ça et de rentrer très vite dans la course. Et puis c'est vraiment l'intérêt pour la compétition qui permet de se remobiliser très vite sur ces objectifs.
Louis Burton, skipper de Bureau Vallée, prêt pour ce départ du Vendée Globe, donné précisément à 12h02, temps universel, et ce sera à suivre en direct sur RFI.
La Ligue 1 de football à présent et le Paris Saint-Germain qui finit mieux la semaine qu'il ne l'a commencé.
Oui, malmené par les grands en Ligue des Champions, le PSG est allé se défouler sur un petit, en l'occurrence le mal classé Angers, battu 4-2. De son côté, Monaco en a bien profité pour reprendre la deuxième place à Marseille en s'imposant sur le tard, 3-1 à Strasbourg, grâce à un doublé du Marocain Elias Benseguir et un but du franco-nigérian Georges Ilinikena, satisfait d'avoir vu son équipe d'abord menée au score, bien réagir ensuite.
On perdait 1-0, c'était dur de revenir avec une belle équipe de Strasbourg. On a su rester ensemble, se battre jusqu'au bout. Bien sûr, on a une très bonne équipe, des très bons remplaçants comme des très bons titulaires. Les remplaçants, on a su faire le job au Georges rentrant et c'était très important. On a la victoire au bout, donc on est tous très contents. Après deux défaites en championnat, il fallait qu'on revienne aujourd'hui avec une victoire et on l'a fait. Alors maintenant, on va essayer de raccrocher le PSG et aller chercher une victoire.
Des propos recueillis par beIN Sport. Autre résultat, Lens a battu Nantes 3-2. 5 nouveaux matchs aujourd'hui. Et notamment le très attendu retour après 2 ans d'absence du brûlant derby Lyon-Saint-Etienne. 19h45, temps universel. En première ligue à suivre Chelsea-Arsenal pour le compte de la 11e journée. Et hier en Liga, le Real Madrid a battu Osasuna 4-0 avec notamment un triplé de Vinicius.
Et puis du rugby, soirée tranquille pour le 15 de France en ouverture de sa tournée d'automne.
Les Bleus qui ont surclassé le Japon 52-12 au Stade de France, 8 essais inscrits pour marquer notamment le retour d'Antoine Dupont après sa parenthèse olympique enchantée à 7. Le capitaine tricolore à la tête d'une équipe efficace et sérieuse.
On a été pragmatique sur le début de match, on a joué beaucoup des ballons de turnover. Je pense qu'on avait tous de l'appétit, envie d'envoyer du jeu. Et après un peu de déchets, nous a pas permis d'avoir assez de consistance sur tout le match, mais la copie est positive évidemment. Je pense qu'on avait un gros appétit, les conditions étaient vraiment bonnes. On a mis beaucoup d'engagement aussi sur nos ballons offensifs sur le début de match, ce qui fait qu'on a eu des libérations rapides et pas mal d'espace autour des recs. Et je sais que nos avants en sont friands, donc on a pu les exploiter. Ça fait plaisir de retrouver le public, le Stade de France avec un match comme ça et il nous tarde la semaine prochaine maintenant.
Et samedi prochain, précisément toujours au Stade de France, les Français retrouveront un adversaire d'un tout autre calibre quand même, la Nouvelle-Zélande. Et puis c'est l'américaine Coco Gauff, numéro 3 mondial, qui remporte le Masters WTA Tennis à Riyad en battant en finale la chinoise Tsin Wen Zhang 3-6, 6-4, 7-6. C'est la plus jeune joueuse à gagner ce tournoi de prestige de fin de saison depuis Maria Sharapova en 2004, s'il vous plaît.
Merci Christophe Diremzian, à tout à l'heure. On le voit notamment en Ukraine depuis bientôt 3 ans, qu'ils soient sous-marins ou de surface, de surveillance ou de combat. Les drones font une entrée tonitruante au sein des flottes militaires. Ils étaient d'ailleurs partout dans les allées du salon Euronaval qui s'est tenu cette semaine près de Paris. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Julien.
C'est un véritable reflet d'une dronisation massive et rapide des marines.
Et filé comme une torpille, Julien, allait mieux, caréné comme un bateau, il n'y avait pas une allée, pas un stand, sans drone au salon Euronaval, une production à foison, fruit de l'imagination de PME et des grandes de l'industrie, au premier rang desquelles Naval Group, Pierre-Antoine Flich.
Chez Naval Group, on a 2 grandes catégories de véhicules, les drones de surface et les drones sous-marins. Dans le drone de surface, on a en effet la gamme SeaQuest, dont le plus petit, le SeaQuest S, a déjà été lancé. C'est un produit industriel qui est en essai à la mer en ce moment. Il a pour particularité d'être embarquable sur des frégates et donc de pouvoir faire tout un tas de missions à leur profit comme une extension de leur capacité. Alors on est de la classe 9m30, donc ça reste un gros objet pour nous tous, mais ramener à l'échelle d'une frégate, par exemple, c'est quelque chose d'assez petit.
Il peut être armé ?
Il peut être armé.
Et le SeaQuest S peut naviguer plusieurs jours, Julien, tout comme l'UQV, un sous-marin de 10 tonnes et de 10 mètres, le bébé de l'ingénieur principal de l'armement, Patrick, de la DGA.
Je suis le manager en charge du projet technologique de développement UQV pour Unmanned Combat Underwater Vehicle. Quelque part, on est en train de défricher un nouveau domaine avec ce type d'engin. Aucune marine dans le monde aujourd'hui est dotée de ce genre d'outils. Donc on réfléchit beaucoup avec la marine nationale à quels pourraient être les usages de ce type d'engin et donc de facto quel armement il faudrait lui confier.
Allez, on a bien une idée quand même de la mission confiée à ce sous-marin. Ce pourrait être par exemple, Julien, blanchir le goulet de Brest pour assurer la sortie sans encombre des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, fer de lance de la dissuasion.
Dans cette course aux drones, Franck, les petites entreprises sont légion.
Delair, Excel, Diodon ou encore Alcimar avec son glider Sea Explorer, Nicolas Delmas.
C'est un planeur sous-marin et on vient jouer sur la flottabilité de l'engin pour le faire couler ou remonter dans la colonne d'eau. Ça lui permet d'avancer horizontalement comme un planeur aérien.
Et quelle est sa fonction ?
Elle est multiple, donc ça dépend de la charge utile. Ici, pour l'exemple, on a une charge utile acoustique qui permet de faire de la détection ou de la localisation de bateaux. L'autonomie du glider, c'est plusieurs mois. Il est opérationnel, il a été mis en œuvre dans différents exercices, autant notamment REPMUS par exemple. Ce qui va changer, c'est que c'est un produit qui est peu cher, qui est très facile à mettre en œuvre, et donc en fait, on peut en mettre beaucoup. Là, actuellement, de manière industrielle, on n'est que deux sociétés dans le monde. Donc il y a Alcimar, qui est une société française, et une autre société américaine.
Et si les petits acteurs comme Alcimar ont un coup d'avance, c'est qu'ils proposent déjà leur solution au marché civil. C'est la clé du succès, martèle Timothée Moulinier, délégué innovation du GICAN, le groupement des industries navales.
Au GICAN, on en est persuadé. Hein. Nous, on travaille bien ces deux axes. Hein. On a 50% de notre chiffre d'affaires qui est dans le militaire, 50% dans le civil. Et on voit que les technologies qui sont robustes dans le temps, c'est ceux qui sont capables justement d'adresser les deux marchés, qui sont capables de faire face au cycle, au temps long du militaire avec le temps court, la réactivité plutôt du civil. On croit beaucoup à cette approche duale.
Et en s'appuyant sur un microcosme d'entreprises très dynamique situé sur la Côte d'Azur et en Bretagne Sud, la France, en retard sur le segment des drones aériens, semble cette fois, Julien, avoir tous les atouts pour devenir numéro un des drones navals.
Ligne de défense, Franck Alexandre, merci beaucoup. Et c'est l'un des événements les plus importants d'une année déjà considérée comme la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité. La première au-dessus de la limite d'1,5 degré de réchauffement. La COP29 s'ouvre demain à Bakou en Azerbaïdjan. Vous la vivrez sur RFI. Et déjà la conférence de l'ONU sur le climat s'annonce marquée par l'absence de nombreux chefs d'État, Joe Biden et Emmanuel Macron parmi tant d'autres. Dans notre tour du monde des correspondants ce dimanche, on se penche sur trois figures de négociateurs qui vont représenter leur pays, à commencer justement par les États-Unis et John Podesta qui devra dès demain tenir une position difficilement tenable. Joe Biden a ramené le pays dans l'accord de Paris, mais le 20 janvier, c'est Donald Trump qui promet de nouveau de le quitter quand il reprendra les clés de la Maison Blanche. Loubna Anaki, à cette COP, il y aura donc comme un éléphant dans la pièce.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Impossible de ne pas penser que tout ce que John Podesta pourrait négocier ou promettre en tant que représentant de l'administration Biden pourrait, et il y a de grandes chances, être annulé par Donald Trump dans un peu plus de deux mois. Pourtant, c'est vrai, hein, John Podesta, qui a succédé à John Kerry, n'est pas un inconnu et a les épaules nécessaires pour ce genre de mission compliquée. Il a servi comme conseiller sur les questions climat auprès de Barack Obama, a dirigé la campagne présidentielle d'Hillary Clinton avant de rejoindre l'administration Biden pour gérer, là aussi, les questions de l'environnement. Les choses auraient probablement été plus faciles pour lui lors de cette COP si Kamala Harris avait gagné. Et donc, il sera intéressant de voir ce qu'il va réussir à faire durant ce sommet, sachant que l'administration Biden apparemment travaille en ce moment même sur des moyens de protéger de Donald Trump les mesures prises sur le climat depuis 4 ans.
Loubna Anaki à New York, merci beaucoup. Parmi les personnalités clés de cette COP29, il y a aussi un Kenyan, Ali Daoud Mohamed, président du groupe africain des négociateurs sur le climat et envoyé spécial pour le climat du gouvernement de William Ruto. Il sera l'un des porte-voix du continent à Bakou et il est devenu, dans son pays, une référence pour les questions climatiques, Alban Tiroir.
Expert en développement et politiques environnementales, c'est ainsi qu'Ali Daoud Mohamed se présente sur le réseau social LinkedIn. Fonctionnaire de longue date, il a plus de 20 ans d'expérience au sein du service public kényan à des postes en lien avec le climat. Il a notamment été ministre délégué à l'environnement, puis conseiller sur le changement climatique au sein de la présidence. Investi pour la cause environnementale, il est aussi président du conseil d'administration de Wildlife Direct, une ONG qui œuvre pour la protection de la faune au Kenya. Discret, Ali Mohamed a surtout été propulsé sur le devant de la scène international lorsqu'il a été nommé envoyé spécial pour le climat par le président William Ruto en 2023. Un de ses premiers chantiers a été le sommet africain pour le climat qui s'est tenu à Nairobi l'année dernière. Depuis, il s'exprime régulièrement dans des médias internationaux. Le Kenyan pousse pour une Afrique avec une voix unifiée sur les questions environnementales. Il insiste notamment sur l'urgence d'obtenir des financements pour aider le continent à faire face aux conséquences du dérèglement climatique et à financer sa transition énergétique. Ce sera un des points clés à la table des négociations lors de cette COP 29.
Alban Tiroir à Nairobi pour RFI et puis pas de surprise du côté de l'Argentine qui ne sera de toute évidence pas l'un des facilitateurs de cette COP29. À Bakou, celle qui représentera Buenos Aires est parfaitement alignée sur la vision du président Javier Milei, celle du climato-scepticisme, Théo Conscience.
Oui, Anna Maria Vidal de Lamas est une avocate spécialisée dans le droit environnemental qui s'est notamment dédiée au conseil pour les entreprises. Un pied dans le secteur privé qui résonne avec cette phrase prononcée il y a 2 semaines lors de la COP biodiversité quand elle avait estimé que la gestion climatique est une question de marché. Diplômée de l'université de Buenos Aires, elle a travaillé pour le gouvernement néolibéral du président Carlos Menem dans les années 90 et a été nommée en janvier à la tête du portefeuille de l'environnement, rétrogradée du rang de ministère à celui de sous-secrétariat d'État par Javier Milei. Depuis, Anna Maria Vidal de Lamas défend la position du président argentin. Le changement climatique est un phénomène cyclique qui n'a que peu à voir avec l'industrialisation et l'activité humaine. Tout en écartant une sortie de l'accord de Paris sur le climat, elle assure qu'à la COP29, l'Argentine ne sera pas proactive, mais qu'elle tiendra ses engagements.
Théo Conscience, à Buenos Aires et cette COP29 à Bakou que vous suivrez dès demain sur RFI et en ligne sur notre site rfi.fr. Bientôt 6h30 en temps universel avant le retour de l'info africaine, votre rendez-vous du dimanche, c'est dans ta nature, à la rencontre cette semaine de quelques prédateurs remarquables qui usent de la ruse ou de la force pour attraper leur proie, Florent Guignard.
Nous sommes dans l'Atlantique, au large de la Norvège. Imaginez non pas un prédateur, mais 2,5 millions des morues ou des cabillauds. C'est la plus grande scène de chasse jamais observée par des scientifiques. Les morues ont repéré leur poisson préféré, des capelans, et ils sont nombreux, c'est la période de reproduction. 23 millions d'individus massés dans un banc qui s'étire sur des kilomètres. Parce que se regrouper, c'est une technique de défense partagée par de nombreux animaux grégaires. Et parce que l'union fait la force, mais les morues étaient plus fortes et sont 4 fois plus grosses. Bilan, plus de 10 millions de poissons engloutis en quelques heures. Nous voilà à présent en Australie. Un incendie fait rage, des rapaces ont repéré la fumée. Et c'est par centaines qu'ils arrivent au-dessus du feu pour se saisir de branches enflammées qu'ils relâchent dans des zones encore épargnées par l'incendie pour obliger leur proie à sortir du bois. Le repas est servi bien chaud. On retourne au fond de l'eau où se promène un crustacé qui ressemble à une crevette aux couleurs incroyables, vert, rouge, bleu, c'est la skye. Sans doute le prédateur le plus terrible des océans grâce à la force de ses pattes et leur rapidité. Elle frappe en 1/1 seconde à la vitesse de 100 km/h. C'est imparable, c'est le record chez les animaux. Et elle frappe d'une force inouïe, 1500 newtons, un coup de poing dans l'eau. L'orque, elle, préfère pour assommer ses proies les coups de boule.
Oh non, pas ça. Aïe.
Ou les coups de queue qui les catapultent en l'air. Mais le prédateur le plus efficace est au-dessus de tout soupçon, c'est la libellule, si gracieuse, 97% de réussite, grâce à une vision à 360 degrés, des ailes si performantes qu'elle peut même faire marche arrière. On passe à la question.
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils.
C'est quoi un ovni ?
À ne pas confondre avec un ovni dans le ciel, un ovni est un objet flottant non identifié que les bateaux peuvent heurter en mer, des conteneurs, des bouts de bois, mais le plus souvent des baleines ou des dauphins. Alors la direction du Vendée Globe, la course à la voile autour du monde qui s'élance aujourd'hui, a décidé pour la première fois d'interdire 2 zones de navigation dans l'Atlantique, dans les Açores sur la route migratoire des cétacés et au Cap-Vert où se reproduisent en ce moment les baleines à bosse. Un skipper raconte avoir tué une baleine en plein sommeil. Mais au-delà des bateaux de course qui filent de plus en plus vite, les navires qui sillonnent les océans tueraient par an 20 000 baleines. Ça fait chaque jour 55 victimes d'accidents de la mer.
Je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or, l'île au trésor et les grands bals sur les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour.
Sur un air de Michel Polnareff, Florent Guignard pour C'est dans ta nature. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RFI. Le journal dans une minute.
Le club RFI, Éric Amien.
Un nouveau club RFI à l'île d'Idjoui. La famille du club s'agrandit avec la création d'un nouveau club à Idjoui en RDC. Obero Kutimeni, président du club, raconte les particularités de son île qui se trouve au milieu du lac Kivu. Le club RFI de loin l'émission la plus proche.
Le Club RFI, Éric Amien.
Tout à l'heure, à partir de 19h41.
RFI.
Vous êtes chanteur ou musicien d'Afrique, des Caraïbes ou de l'océan Indien? Vous rêvez de développer votre carrière à l'international? Inscrivez-vous en ligne pour le prix Découverte RFI avant le 20 novembre.
Le lauréat ou la lauréate aura la chance d'être à l'affiche d'un concert diffusé sur RFI et bénéficiera d'une tournée en Afrique et d'une aide à la création.
Retrouvez toutes les étapes et actualités du concours sur prixdécouverte.com et sur Facebook, Insta et TikTok.
En partenariat avec l'Institut français.